Géant martial, 6,40 de moyenne.
Niveau E, tout le monde est d'accord.
Silence interrompt.
Plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a, il a des centres d'intérêt, hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal.
Vous prenez tous vos cahiers de texte et vous notez pour demain. Vous allez répondre par écrit à la question suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que Marc...
Nous sommes très en retard par rapport aux autres classes de seconde. Il vous reste 2 mois et 3 jours avant le début des examens.
C'est pas nous qu'on commence, c'est vous, monsieur.
Quand on sera grand, on va apprendre à nos enfants. Donc on veut une école républicaine, tout le monde a sa chance. Et là, c'est pas ce qu'on nous propose.
Suppression de postes, réforme de...
Cas d'école, le magazine sur l'école.
Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe.
Faux !
Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes. Accent aigu et légumes. Soupe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P ! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, mais je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Bon, on a le droit de se moquer des gens qui font des fautes. Voilà, c'est bon enfant.
Sauf
dans un seul cas, où c'est absolument interdit.
Oula, mais y'a que des fautes. Comment tu sais pas écrire, mec?
Ouais. Mais c'est parce que je suis dyslexique. Ah, désolé. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai un profond respect pour toi et ta famille. Je suis dyslexique. Franchement, j'ai tellement entendu que j'ai l'impression que tout le monde est dyslexique. Faut arrêter avec la dyslexie. J'ai l'impression que quand t'es dyslexique, tu peux le dire à toutes les sauces, ça passe.
T'arrives même pas à soulever l'étagère. Oh, ça va. Je suis dyslexique, ok.
Ce sketch humoristique de Norman prête à sourire. Mais en même temps, il est le révélateur d'une double réalité. D'une part, de la prise de conscience que certaines difficultés scolaires ne résultent pas uniquement du manque de travail ou des origines sociales des élèves. D'autre part, que ces troubles dys, comme la dyslexie ou la dyspraxie pour ne citer qu'eux, sont parfois l'objet d'une relative perplexité de la part de l'opinion et conduisent tantôt le corps enseignant à critiquer une ingérence du corps médical dans les pratiques pédagogiques. Nous avons voulu en savoir plus à propos de ces troubles dys et c'est pourquoi nous nous sommes rendus début octobre à la deuxième journée des 10 qui se déroulait à Saint-Marcel en Saône-et-Loire à l'initiative de l'association Puradis. À l'occasion de ce reportage, nous avons pu écouter et rencontrer divers protagonistes de la prise en charge de ces troubles, qu'il s'agisse d'orthophonistes, de neuropédiatres, d'ergothérapeutes, de psychologues, d'enseignants, mais également nous avons pu recueillir le témoignage de personnes atteintes de ces troubles 10 ainsi que de leurs familles. Quels sont ces troubles? Comment se manifestent-ils? En quoi gênent-ils les apprentissages? Comment cela est-il vécu à la maison? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de trouver des réponses.
On va dire que la dyslexie, c'est vrai qu'on va parler en mots simples parce que la définition scientifique évolue.
Sophie Saltarelli, orthophoniste et présidente de l'association Puradis.
Donc en plus, si vous prenez la définition d'il y a 3 ans, c'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Donc on va dire qu'en termes très simples, c'est quand un enfant, qu'il soit petit en âge de lecture quand même, hein, puisqu'on parle de la dyslexie. Donc en France, l'apprentissage de la lecture, c'est CP-CE1. Donc du coup, on va pas pouvoir parler de dyslexie avant la fin du CE1, puisqu'il faut déjà qu'il ait appris à lire. Mais par contre, on peut aussi découvrir une dyslexie au collège ou au lycée. Donc c'est quand un jeune présente des difficultés de lecture qui sont significatives. Significatives, ça veut dire que c'est pas juste j'écorche un mot ou je saute une ligne. C'est vraiment de façon prépondérante, importante. Donc on mesure ça avec des écarts d'âge, ou ce qu'on appelle des écarts types aussi, par rapport à la moyenne. Alors ces difficultés sont donc significatives, mais elles sont durables, malgré une intervention spécialisée, donc en France c'est l'orthophonie. Voilà. Donc un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage à la lecture, après 6 mois d'intervention orthophonique, en dehors de toute difficulté sensorielle évidente qui l'empêcherait de lire, alors on peut être myope, et avoir une dyslexie. Mais enfin, si on a vraiment un gros trouble visuel et qu'on n'arrive pas à orienter notre regard sur les mots, on n'a pas une dyslexie, du coup. Donc voilà, cet enfant qui a des difficultés significatives, persistantes, malgré 6 mois de rééducation orthophonique, et qui n'a pas de trouble sensoriel massif en amont, et qui présente quand même des capacités d'apprentissage dans d'autres domaines, alors on peut s'interroger sur l'existence d'une dyslexie. Alors comment on va le voir, cette dyslexie ? Eh bien, au quotidien, les enseignants et les parents, ils voient un enfant qui saute des mots, qui lise que le début du mot, qui va inverser des lettres. Les « pe » vont devenir des « be », on parle des confusions. « Pe »,« be », »,« te », »,« de », »,« fe » et « ve ». Parce que ce sont des sons proches que l'enfant peut confondre. Mais il y a des confusions aussi dites visuelles. « M », « ne », le « be » et le « de », parce que c'est l'orientation de la lettre. On va avoir des groupes de consonnes, comme dans les tra, cra, voilà, une des deux consonnes qui est mal décodée. On va avoir un enfant qui va lire de façon très annonnée, par exemple. Ça peut aussi être ça, hein, un enfant qui décode bien, mais quand on l'interroge, il n'a rien compris. Et en fait, quand on lui lit à l'oral, il comprend très très bien. Vous voyez, c'est cet écart de performance entre la présentation orale et la présentation écrite. On peut aussi avoir un jeune, donc ça c'est ceux qui passent à travers les mailles du filet à l'école primaire, un jeune qui finalement lit plutôt pas mal, arrive bien à décoder, comprend bien, puis quand il arrive en 5e, 4e, on voit qu'il finit jamais, systématiquement, il n'a pas le temps de finir, on dit qu'il est lent, qu'il n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Alors je ne dis pas que tous les élèves qui sont lents et qui sont un peu tête en l'air sont dyslexiques, mais voilà, on peut s'interroger quand un élève qu'on voit qu'il y a des performances, qu'il y a des aptitudes, et puis qu'arrive à un certain niveau de classe, à chaque fois qu'il est en situation face à un texte à l'écrit, n'arrive pas à traiter l'information, est trop lent, on peut s'interroger si justement il n'y a pas un problème d'automatisation de la lecture, parce qu'en fait, tous ces signes-là, in fine, ça signe ce qu'est vraiment la dyslexie, c'est un trouble de l'automatisation du décodage et de l'accès à la compréhension en lecture. C'est-à-dire l'enfant décode, l'enfant peut comprendre, mais ça ne se fait pas automatiquement. Ça lui demande systématiquement un effort et pendant ce temps-là, il n'est pas en train de mémoriser et de comprendre. Donc, il doit relire 2 fois, 3 fois. Voilà. Ça, c'est pas normal. Quand on arrive à partir du CE2, on est capable de lire une phrase ou un texte sans trop réfléchir au mécanisme de décodage. Et en même temps, on comprend et en même temps, on retient ce qu'on a lu. Voilà.
Très bien. Et alors jusque dans les années 90, on parlait de différentes formes de dyslexie. Que dit la recherche désormais ?
Alors la recherche aujourd'hui est un petit peu complexe, on va dire. Il y a plusieurs hypothèses sur les origines de la dyslexie. Alors il y a une portion d'un gène qui a été retrouvée, mais c'est des études encore assez embryonnaires. Donc bon, voilà, ça c'est un niveau plus étiologique, on va dire, sur l'origine vraiment en amont de la dyslexie. Après, on peut discuter des origines, on va dire, cérébrales de la dyslexie, de quels sont les mécanismes dans le cerveau qui entraînent ces formes de troubles d'automatisation de la lecture. Alors il y a plusieurs courants de pensée. Il y a un courant notamment sur les théories cérébelleuses, parce que le cervelet est vraiment en lien beaucoup dans tout ce qui est automatisation de nos mouvements, les mouvements des yeux, les mouvements de la bouche, les mouvements de notre corps, de la respiration. Et c'est vrai que quand il y a un trouble sur le cervelet, une anomalie du cervelet, ça va entraîner des problèmes d'automatisation dans la coordination de ces mouvements. Or la lecture, c'est avant tout des mouvements des yeux qui se baladent de mot en mot. Et ensuite, il faut acquérir un code. Donc, il faut que ça se balade de lettre en lettre. Et puis ensuite, ces lettres, il faut les transformer en un son. Puis ces sons, après, il faut les réassembler de façon rapide, automatique, pour que ça active un sens dans la tête. Voilà, un lexique dit ensuite, ça constitue un lexique dit orthographique. Donc, cette première théorie, dite cérébelleuse, expliquerait le problème d'automatisation de la lecture. Et donc, ça implique un certain traitement, notamment dans le traitement des mouvements des yeux. La fameuse fenêtre visio-attentionnelle aussi. Voilà, ça rejoint un peu les mêmes théories, même si ce sont des auteurs différents. Après, il y a l'autre théorie dont on a beaucoup parlé effectivement dans les années 80-90, qui était la théorie phonologique, hein, avec beaucoup de travaux de recherche sur la phonologie. Mais en fait, ça, alors ce n'est pas faux, c'est complètement vrai, hein, les désordres phonologiques de conscience, de traitement des sons qui sont présents comme déficitaires chez les dyslexiques. Mais c'est un étage inférieur, ce n'est pas l'étage d'explication. Donc en fait, vous pouvez avoir un trouble phonologique, ça n'explique pas pour autant d'où vient ce trouble phonologique, voyez. Donc c'est pour ça que la recherche a continué à avancer pour essayer de comprendre d'où venaient vraiment les mécanismes qui se répercutaient ensuite sur la phonologie. Voilà. Donc du coup, on parlait avant, on en parle toujours, hein, de dyslexie phonologique, dyslexie de surface ou dyslexie lexicale, et du coup mixte quand on a un peu les deux. Et puis il y a une forme, une troisième forme de dyslexie qui est la dyslexie visuo-attentionnelle, qui rejoint donc le concept de la première école de pensée. Voilà. Donc finalement, quand on suit le développement de la lecture dans la tête d'un enfant qui n'a pas de dyslexie, effectivement, il passe. Donc c'est le modèle du Tafrit, hein, du développement de la lecture. Au début, on a une lecture très alphabétique avec un codage. On sait maintenant, et monsieur Dehaene, Stanislas Dehaene, qui est au Collège de France, qui tient la chaire de neuropsychologie, il a très bien montré dans son livre Les neurones de la lecture qu'il faut un apprentissage absolument explicite des codages. Ensuite, deuxièmement, un entraînement très automatisé pour pouvoir justement se dégager des contraintes de ce codage, pour accéder enfin au troisième niveau, qui est le niveau orthographique, c'est-à-dire un stock de mots qui fait directement du sens. Donc effectivement, si vous êtes entravé dès le premier niveau, dès les codages, eh ben, ça va être compliqué d'accéder au niveau suivant, ce qui est un petit peu la pensée avec laquelle fonctionne l'école, hein, que quand on n'a pas atteint le stade 1, c'est compliqué d'aller au stade 2. Alors, quand on est dyslexique, on reste dyslexique. Donc, on ne va pas attendre que vous ayez atteint un codage parfait pour vous présenter des mots, parce que sinon, tout le développement de la lecture va être entravé. Alors, c'est pour ça qu'on dit on a une dyslexie mixte, parce que tout est un peu difficile. Mais là où on peut faire progresser les enfants assez rapidement, c'est justement s'il y a une forme de dyslexie qui touche vraiment le codage déjà de façon primaire, eh ben on va essayer de tout de suite mettre en œuvre l'identification globale des mots pour essayer de contourner le problème et le faire accéder de façon valorisante et marquée de réussite, quoi, l'accès à ce fameux décodage de la lecture qui fait du sens. Et en parallèle, travailler au codage. A contrario, si vous avez un enfant qui n'a pas de problème pour coder les lettres et les sons de la langue, mais qui n'arrive pas à enregistrer, à lire automatiquement le mot de façon complète, eh ben on va au contraire utiliser des stratégies où on passe par le codage, et puis en parallèle, on travaillera en restauration, donc en rééducation orthophonique, l'accès à la représentation globale du mot, élargir sa fenêtre dite visio-attentionnelle, par exemple. Donc c'est vrai que la forme, au-delà des étiquettes qui sont peut-être un peu compliquées pour le grand public, ce qui est important, c'est une fois qu'on a dit qu'il y avait une dyslexie, de connaître précisément le fonctionnement de l'enfant avec cette dyslexie, connaître aussi ses leviers, ses performances. Si vous avez une dyslexie puis que vous avez un faible stock lexical à l'oral, que votre langage oral est peu développé, on va pas avoir du tout le même profil d'enfant et les mêmes compensations qu'un enfant qui a une dyslexie mais qui compense excellemment bien par son niveau de langage oral. Voilà. Donc, faut aussi s'appuyer sur les points forts de l'enfant. Est-ce que sa logique, son raisonnement, et aussi les conditions environnementales, familiales, le milieu d'enseignement. Voilà. Donc c'est une fois qu'on a dit que l'enfant a une dyslexie, en fait, on a dit un peu, mais on n'a pas encore tout dit. Il faut regarder aussi tout le reste autour.
Vous êtes sur Radio Prévert, 105.9 FM.
Au-delà de la définition de ces troubles, il y a un vécu, un quotidien, quasi toujours synonyme de labeur, de galère et d'échec, débouchant sur un malaise qui laisse des traces psychologiques pour ces personnes atteintes, mais également pour leur entourage. Illustration.
La dyslexie, la dyspraxie, du coup, c'est pas pareil.
Anne Bizardon, présidente de l'association TAL, Troubles des apprentissages louanais.
Parce que la dyslexie, ça concerne beaucoup, beaucoup plus mon mari d'ailleurs, qui est pourtant adulte, mais qui, du coup, a du mal à lire, qui ne fait pas un écrit sans venir me le montrer pour que je corrige les fautes. C'est cette dépendance-là au quotidien, avec en plus, je pense, je le vois, enfin, c'est un déficit au niveau de la culture, tout ce qui est bouquin, tout ce qui est voilà, tout ce qu'on gagne à lire et qui n'est pas accessible. Enfin, maintenant ils le sont grâce aux bouquins enregistrés, Mais il y a une époque, par exemple, pour Thierry, ben non, il y a des choses qu'il n'a pas eues. Parce que c'était trop compliqué pour lui. Et aujourd'hui, des grands textes trop longs, eh ben, c'est difficile. Ça lui prend beaucoup plus de temps qu'à nous. Donc ça, c'est le quotidien du dyslexique. Le dyspraxique, ben, c'est des leçons de cuisine olé olé. Il faut faire beaucoup de ménage derrière. Voilà, c'est compliqué, mais ça peut être rigolo. C'est une question d'organisation qui est très dure, des fois, à reprendre. Et c'est très important pour nous d'avoir un diagnostic, parce qu'à un moment donné, on finit par se demander, mais c'est pas possible, il le fait exprès. Parce que des choses simples qu'on répète tous les jours et que lui rate complètement tous les jours. Et on se dit, mais voilà, il le fait exprès. Pour lui, je pense aussi, une difficulté aussi à s'estimer, parce que il voit bien aussi que son frère, ben, il tape très bien dans un ballon, il n'y a pas de problème pour passer des vitesses sur son vélo, et que lui, ben, ça ne suit pas. Donc il y a l'image de soi aussi par rapport, en comparaison aux autres, qui est compliquée.
Alors, le quotidien va redessiner la famille traditionnelle, je dirais.
Frédéric Godillère, trésorière de l'association TAL, Trouble des apprentissages louanais.
C'est-à-dire, dans la famille traditionnelle, il y a le papa, la maman et les enfants. Le quotidien dans une famille de 10, c'est qu'il y a un autre couple, entre guillemets, qui se dessine, c'est-à-dire la maman, parce que c'est généralement elle qui s'occupe de l'enfant 10, et l'enfant 10 lui-même. C'est-à-dire que tout, par exemple, les activités périscolaires, on va déjà réfléchir à l'enfant 10, avant de réfléchir au couple et aux autres enfants. Les vacances, on va déjà réfléchir à l'enfant 10, ce qu'il peut ou ce qu'il peut pas faire, ou où on va ou on va pas, par rapport aux autres enfants. Et du coup, mine de rien, quand il y a un enfant 10 dans la famille, et ben, il sait souvent que le couple papa-maman a du mal à tenir, ou voire même ne tient plus. Et puis, il y a les autres enfants. Enfin, je peux parler de mon cas personnel. J'ai 4 enfants à la maison. Mon temps est divisé en 2, c'est-à-dire la moitié de mon temps me prend ma fille dyspraxique au quotidien, et l'autre moitié de temps me prend mes 3 autres enfants. Alors, on le dit, on en parle, on en discute à la maison, voilà, c'est clairement expliqué. Oui, elle a un cerveau, il est un tout petit peu plus lent que le tien. Oui, elle met plus de temps à faire les choses. Et ben alors oui, je passe plus de temps avec elle, mais c'est pas pour autant que j'essaye de ne pas passer de temps avec toi et de faire, ben, par exemple, cuisiner. Parce que c'est vrai que dit cuisiner avec un enfant dyspraxique, ben c'est juste Beyrouth, quoi. C'est-à-dire que cuisiner avec sa fille qui tout ça va et qu'un paquet de farine ne finira pas forcément par terre sur le sol, c'est beaucoup plus agréable. Donc on choisit. Voilà, le quotidien. Échanger et choisir en fonction de l'enfant 10.
Alors, comment je vis l'handicap de mon enfant
Sabrina Ruiz, présidente de l'association À l'écoute des enfants 10.
Je le vis en fait bien et mal, en fait, parce que je vois que ma fille, elle passe par les mêmes difficultés que je suis passée. Et bien, parce que je me dis que au jour d'aujourd'hui, si on fait de l'information, on peut aider ces enfants-là à travailler comme les autres, et puis adapter des aménagements, faire des fiches plus grandes, agrandir les textes, et puis surtout les écouter, savoir où sont leurs difficultés, savoir travailler comme tout le monde, et puis pas être jugé, en fait. Jugé, ils savent pas forcément bien écrire ou pas bien faire au niveau de l'orthographe. Et puis au niveau des leçons, pareil. Les leçons, faut pas croire que l'enfant, il a pas appris sa leçon, car en fait, il a pu passer 2 heures dessus, et puis le lendemain, plus s'en souvenir du tout.
Alors, voilà. Alors bon, ma fille a 23 ans, donc quand elle était petite, le mot dyspraxie était totalement inconnu.
Madame Giordano, parent d'une enfant 10.
Donc, je me posais beaucoup de questions sur pourquoi ma fille avait autant de maladresse, n'arrivait pas à mettre un bouton, ne savait pas se brosser les dents, les lacets, on n'en parle même pas, grosses difficultés scolaires qui m'étaient signalées chaque année, enfant très seul, isolé dans la classe, dans la cour de récréation. Alors c'est vrai qu'en tant que maman, c'est des choses qui inquiètent beaucoup, parce que on se dit mais ma petite fille, alors elle n'est pas comme les autres. Et puis on comprend pas, parce qu'on voit bien que malgré tout, elle a un développement normal, qu'elle a une intelligence normale, voilà. Alors quand on a mis un mot sur ces difficultés, qu'on m'a dit que c'était une dyspraxie visio-spatiale, ben quelque part il y a eu un grand soulagement. Parce que là, je me suis dit, bon, maintenant, on sait, et on va pouvoir utiliser des moyens, des outils, voilà. Donc, il y a eu de l'ergothérapie qui s'est mise en place, elle était suivie par le réseau. Enfin, bon, après, moi, j'ai eu un soulagement quand on a vraiment pu détecter ce que c'était. Et puis après, ben, il fallait y croire, hein, parce que c'était pas facile scolairement. Donc, faut beaucoup se battre, il faut exiger de l'enfant beaucoup de travail, parce que on sait très bien quand on a un handicap comme ça, faut travailler plus que les autres pour arriver à un résultat moyen. Donc, c'était un gros investissement hein, du quotidien, mais bon, le résultat est là aujourd'hui. Alors. C'est bien.
Bah, au collège, ça se passe bien, mais c'est surtout les professeurs.
Clémentine Ruiz, collégienne, atteinte par des troubles 10.
Bah, il y a des personnes qui sont pas très sympas, mais je regarde plus les personnes qui sont sympas.
Il y a beaucoup de conflits, ou alors est-ce que tu te rends compte que certains enseignants aussi, de leur côté, veulent faire du mieux possible qu'ils veulent? Comment est-ce que tu perçois les choses?
Il y a des professeurs, je vois, qui s'en fichent. Et il y en a d'autres, bah, ils font du mieux qu'ils peuvent.
Moi, c'était, comme vient de l'expliquer ma mère, quand on ne savait pas ce que c'était, ça a été très, très compliqué.
Pénélope Giordano, étudiante, atteinte de troubles 10.
Parce qu'elle s'énervait assez rapidement dès que je savais pas faire quelque chose. Elle pensait que je le faisais exprès ou quoi. Et moi, je comprenais pas et elle comprenait pas. Donc forcément, c'était très compliqué. C'était compliqué aussi au niveau relationnel avec les autres, parce que j'ai eu des gros problèmes avec les autres élèves. J'étais toujours isolée, toujours. Déjà, j'osais pas me mêler aux autres. Et ensuite, quand j'essayais tant bien que mal de m'intégrer, bah les autres comprenaient pas. Donc j'étais sans arrêt rejetée. J'ai vécu des choses très difficiles. Et c'est vrai que effectivement, quand on a mis un nom dessus, qu'on a commencé à comprendre un peu en quoi ça consistait, ça a été aussi un véritable soulagement, parce que là, on s'est dit, c'est pas moi. En fait, je me suis dit, c'est pas moi qui le fait exprès, c'est pas ma faute, c'est parce que voilà, j'ai un handicap et que voilà, faut l'accepter. J'ai des difficultés, mais je peux m'en sortir avec ces difficultés-là.
Le quotidien, enfin les devoirs, j'ai envie de dire c'est tout bête, mais c'est généralement la première puce à l'oreille des parents. C'est-à-dire les devoirs, on nous dit « Oh mais les devoirs c'est 20 minutes ». Oui, mais quand ça prend une heure et demie et qu'on a beau nous dire que ça doit mettre 20 minutes et que nous ça nous prend une heure et demie, là c'est le premier signal d'alarme, c'est-à-dire la maman elle se dit « Il y a un truc, il se passe quelque chose, je sais pas quoi, mais chez moi ça va pas ». Et c'est les devoirs, la première sonnette d'alarme de la maman ou du papa, mais généralement c'est celui de la maman. Et donc les devoirs, voilà, c'est pas 20 minutes. Nous, ça mettait une heure et demie. Il y avait les autres enfants à côté qui s'impatientaient, qui criaient. Et avant le diagnostic, c'est toute la famille qui prend, qui part en s'engueulant parce que voilà, elle, on met une heure et demie, on est une heure et demie avec elle. Donc le repas, il est pas fait le soir. Donc le mari, quand il rentre du travail, tout le monde s'énerve et que voilà, ça part dans tous les sens. Une fois que le diagnostic est posé, qu'on sait pourquoi notre enfant est 10 et qu'on est, notamment il est dyslexie, du coup, on lui lit les consignes, on lui lit les histoires, on lui lit ce qu'il y a à lire. Et l'enfant, il est plus oral, il va passer par l'oreille. Et du coup, limite, c'est même à nous d'écrire. Mais en tout cas, la leçon sera apprise, la poésie sera apprise. Même si c'est nous qui l'avons lu, on aura mis moins de temps à faire le travail demandé. Parce que c'est la maman ou le papa qui lit à la place de l'enfant. Et du coup, on en gagne du temps. Maintenant, c'est les devoirs à l'école. C'est pas forcément le cas, c'est pas forcément possible que la maîtresse ou le professeur soit derrière pour lire les consignes. Alors c'est comme ça que ça. Voilà.
Alors ça, ça prend énormément de temps, ça demande du temps d'abord parce qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont absolument pas envie de s'y remettre, encore moins que les autres. Ça veut dire qu'il faut s'organiser, retrouver sur l'agenda à la bonne page les bons exercices, vérifier qu'il y a le travail, enfin qu'il y a le matériel, et puis ben, ranger les feuilles qui traînent, qui sont mélangées anglais-français, anglais-maths. Et il faut avoir un œil tout le temps derrière pour remettre en ordre. Et puis, ça veut dire ben, qu'il faut parfois aussi accepter d'aider beaucoup, de lire, de faire les lectures, de façon à ce que ça soit plus simple. Voilà, c'est toute une organisation qui prend beaucoup de temps pour cet enfant-là.
Bon an, mal an, les élèves atteints de troubles 10 demeurent scolarisés dans des établissements ordinaires. Des aménagements sont possibles de manière à réduire leurs manifestations, mais malgré tout, en dépit de la bonne volonté de la plupart des enseignants, ces derniers semblent généralement démunis pour venir en aide à ces jeunes. Qu'est-il possible de mettre en place dans les classes? Nous avons posé la question à un enseignant, Éric Machin, professeur des écoles et membre de l'association Puradis.
Concrètement, en classe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour atténuer les effets de la dyslexie?
Alors, ce n'est pas l'enseignant qui va décider de mettre en place tel ou tel élément. En fait, ça va être un dialogue avec l'orthophoniste de façon à mettre en place les éléments les plus adaptés. Donc, ça va par exemple être modifier les caractères, la taille de caractère, reprendre le livre pour l'aménager. Peut-être souligner des choses, mettre en place des caches de couleurs. Mais ce n'est pas l'enseignant qui va le décider, ça va être l'orthophoniste. Il est donc important qu'il y ait une adéquation et une communication entre orthophonie et enseignant, et bien sûr parents, parce que sans lesquels on ne peut rien faire.
Est-ce que vous pensez que ce n'est pas avantager les élèves dyslexiques en aménageant les documents, par exemple, leur donnant un temps supplémentaire?
Est-ce que vous pensez que c'est avantager quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre de lui donner des béquilles? Moi, je pense pas. Je veux dire, les enfants ont un problème, il faut donc résoudre, ou du moins répondre à ce problème. Si on donne des chaussures de sport à un enfant qui court déjà bien, effectivement, il ira mieux. Mais si on donne des chaussures de sport à un gamin qui a une jambe dans le plâtre, c'est pas ça qu'il lui faut. Donc il faut prendre l'élément qui va bien pour aider l'enfant. Je ne vois pas où est avantagé l'enfant dyslexique. Il a justement déjà un train de retard. Ce serait peut-être bien, lui, pour une fois, de lui donner quelques billes d'avance.
Et dans le même registre, est-ce que vous ne trouvez pas que l'école ne prépare pas les enfants, futurs citoyens, à la société qui les attend dehors? C'est-à-dire en les aménageant, les cocoonant, est-ce que finalement on ne les handicape pas davantage pour la vie professionnelle, par exemple, ou la vie en société?
Ça c'est une drôle de question. Moi je pense que l'école, si c'est préparé à les enfants à se battre dans une jungle, c'est peut-être pas le premier rôle, parce qu'à ce moment-là, on va peut-être certains en manger tout cru tout de suite. Maintenant, je pense que ce sont des... L'enfant doit évoluer au mieux de ses possibilités dans quelque chose, oui, qui peut ressembler à une bulle, mais justement pour qu'il y soit bien, qu'il se sente à l'aise et qu'il puisse se développer au mieux. Si former les enfants à l'école, c'est les mettre tout de suite dans la compétition sauvage à celui qui tapera le plus vite sur l'autre pour pouvoir progresser, moi je ne me sens pas enseignant dans ce cas-là.
Et comment est-ce que vous vous inscrivez dans votre collaboration avec les professionnels pour aider les élèves?
La collaboration avec les professionnels, elle peut être multiple. Alors, ça peut être simplement le rendez-vous téléphonique ou l'échange de mails. Ça peut être aussi un cahier qui circule, comme j'ai eu le cas entre l'orthophoniste, la personne qui faisait de l'aide aux devoirs, moi et les parents. Donc là, on avait une circulation quadrangulaire. Ça peut être aussi des échanges d'outils, ça peut être aussi des rendez-vous. Puis voire même, ça peut même déboucher sur des liens amicaux. Parce que quand on travaille régulièrement avec un même professionnel, eh ben on a la même passion de faire évoluer les enfants.
Et comment est-ce que vous analysez les réticences de certains collègues pour mettre en place certaines adaptations, certaines préconisations?
Je pense qu'il s'agit surtout d'un gros manque de formation. Moi, les 10, avant d'arriver à Puradis, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'en avais vaguement entendu parler, comme tout le monde, mais vaguement entendu parler, c'est notoirement insuffisant pour aider les enfants. Maintenant, Pluradis, c'est une association qui est reconnue par le rectorat, donc elle va pouvoir aider à former les enseignants, jeunes ou moins jeunes. On peut espérer que ce soit des situations qui soient mieux reconnues par les enseignants parce qu'ils seront mieux aptes à les détecter.
Et vous savez que les devoirs sont souvent source d'anxiété, de crise à la maison. Et vous préconisez un certain nombre de conseils. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples?
Alors, les devoirs, je rappelle, de la loi de 1956, ils sont interdits à la maison, première chose. Quelques conseils extrêmement simples. D'abord, si la charge est trop lourde, c'est-à-dire si c'est des heures, c'est non. À titre d'exemple, pour les CP, j'insiste lourdement auprès des parents d'élèves pour qu'ils ne dépassent pas 20 minutes le soir, ce qui me paraît déjà pas mal. Ensuite, si on sent qu'il y a un phénomène de tension entre l'enfant et le parent et que c'est à chaque fois la galère, etc., il faut éviter ça. Donc à ce moment-là, il est bon d'aller chercher de l'aide vers une tierce personne. Ça peut être le voisin, ça peut être le tonton, la grand-mère, quelqu'un qui va être un peu moins connecté à la difficulté et donc qui sera moins dans la tension. Parce que si le parent a une tension forte, il transmet cette tension forte à l'enfant et donc ça donne pas les bonnes choses, quoi.
Et si vous aviez un message à faire passer en particulier, qu'est-ce que ce serait ?
On a trop tendance à regarder les notes comme des éléments négatifs, mais regardons les notes comme elles sont. Elles comptent les réussites. Quand vous avez 12 sur 20, vous avez 12 réussites sur 20. C'est pas 8 échecs, c'est 12 réussites. Il faut apprendre, même avec des enfants qui ont des difficultés, à compter les réussites. Il faut apprendre à voir la progression. Régulièrement revenir en arrière. Tiens, ça, tu ne le savais pas le faire il y a une semaine. Maintenant, tu sais le faire. Regarde, c'est bon pour l'enfant, mais aussi c'est bon pour le parent. Ça va changer son optique. Il va pouvoir apprendre à positiver.
Radio Prévert, la radio scolaire 105.9.
Moi, on m'agrandit les feuilles, on me fait des dictées à trous. Ou sinon, en SVT, au lieu de me faire tout recopier les leçons, et ben, on me photocopie. Et puis une AVS ou de l'aide pour les devoirs.
J'ai tout d'abord eu très vite la mise en place du tiers-temps. Même au bac, oui. Au bac, j'avais carrément eu combien ? J'avais eu, je crois, plus de 2 heures supplémentaires.
2 heures en philo.
En philo, par exemple, on devait avoir 4 heures, j'avais 6 heures. Et comme en fait le bac de littérature, le bac de philo commençait à 8 heures. Donc ça se terminait forcément à midi. Donc moi je terminais à 13 heures et quelques. Et en fait je reprenais la littérature à 2 heures. Donc du coup ça faisait trop court et en fait j'ai réussi à avoir un aménagement pour commencer la philosophie à 7 heures du matin au lieu de 8 heures. Donc comme ça j'avais le temps de manger, j'avais le temps de me retourner, voilà. Et du coup c'est vrai que on met plus de temps forcément. Mais au bout du compte, on y arrive comme les autres élèves, finalement, j'ai envie de dire. Et du coup, faut accepter cette lenteur, faut accepter ces aménagements. Et là, par exemple, j'ai fait ma licence en 2 ans. Bon, bah forcément, ça prend plus de temps. Forcément, je suis à un niveau inférieur par rapport à ceux qui étaient dans ma classe l'année dernière. Mais au final, c'est pour arriver à un résultat moindre, certain. Mais avec des aménagements et même avec mes difficultés, au final, j'y arrive. Et c'est surtout ça que je voulais faire passer.
Donner du temps à ces enfants-là, je pense que c'est très important. C'est les enfants 10, c'est des enfants lents parce que il leur faut du temps pour comprendre, pour lire, pour synthétiser. Et donc, c'est vrai qu'on dit tiers-temps, mais c'est souvent plus d'un tiers-temps dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Elle a la chance d'être toujours tombée sur des enseignants compréhensifs. Faut pas se leurrer, il y a des enseignants qui ne sont pas compréhensifs du tout et où les enfants disent c'est juste une aberration qui vient d'arriver, voilà. Bon, il y a des enseignants qui maintenant sont formés, qui maintenant on en a entendu parler et qui du coup se mettent à la page. C'est-à-dire, ils vont faire des photocopies, ils vont lire les consignes, ils vont relire les consignes différemment, reformuler. Ils vont demander moins de choses à l'enfant parce que comme il perd du temps à lire, et ben du coup il va faire moins de choses. Ou au contraire, ils vont lui donner plus de temps, on appelle ça le tiers-temps. Donc voilà, si vous avez la chance de tomber sur des enseignants qui sont bienveillants, bravo. Les autres, j'ai envie de dire, changez d'école. Voilà.
Moi, c'était très variable, mais c'est vrai qu'au niveau du collège, par exemple, on voit bien la différence qu'il peut y avoir d'un professeur à un autre. Certains sont très très au courant et très engagés au niveau pédagogie. D'autres trouvent que c'est encore des histoires qu'on leur raconte et que les enfants feraient mieux de travailler, lire, et puis ça irait mieux. Après, il y a eu quand même en majorité une grande sensibilisation malgré tout des profs. Ce qui poserait plus problème, par exemple, ce sont des choses comme la dyscalculie. Les professeurs de maths ne sont pas encore beaucoup formés là-dessus. Et ils sont complètement... ils ne savent pas quoi faire. Alors que la dysorthographie, par exemple, c'est des choses qui sont bien prises en compte maintenant. Là, au niveau du brevet, mon fils a passé le brevet. Bon, il avait un tiers-temps, il avait des dictées à trous. Voilà, les photocopies étaient bien étaient grosses, agrandies. Voilà, ça a été beaucoup mieux pris en compte. La dyscalculie, par exemple, il y a encore tout un cheval de bataille à mener, là.
Pour accueillir au mieux les élèves 10 afin de les aider à réussir dans leur scolarité, un PAP, c'est-à-dire un plan d'accompagnement personnalisé, est venu remplacer les anciens PAI 10. Ce nouveau PAP est élaboré chaque année pour établir les aménagements nécessaires à la réussite de l'élève. Il est le fruit d'un dialogue entre la famille, la communauté éducative ainsi que les professionnels de santé qui suivent l'élève. Car le maître mot qui revient sans cesse dans la bouche des témoins que nous avons pu interroger est bien celui de la coopération. Sans celle-ci, la réussite des élèves atteints de troubles 10 semble compromise.
Alors on peut passer son temps à dire tout ce qui va pas et tous les orthophonistes qui répondent pas au téléphone et les enseignants qui répondent pas non plus et puis les PAI qui sont pas appliqués qui se transforment maintenant en PAP. Bon voilà, on peut effectivement lister tout ça, c'est difficile, on va pas se le cacher. Maintenant, moi j'ai aussi plein de belles expériences et de belles coopérations. La semaine dernière, par exemple, en Saône-et-Loire, nous avons fait 2 voitures dijonnaises et 1 voiture de Saône-et-Loire qui sont venues se retrouver autour d'une formatrice qui s'appelle Brigitte Roy, qui est celle qui a inventé la méthode distinctive pour qui aide les enfants justement qui ont des difficultés d'acquisition de la lecture entre autres. Et eh bien c'était que des enseignants de CP, enseignants de CLIS, enseignants de CE1, éducateurs, voilà, qui avaient juste envie sur un samedi dans leur journée temps personnel de pouvoir approfondir cette méthode qu'on utilise les uns ou les autres pour certains enfants et qui nécessite une coopération entre tout le monde. Donc voilà, on s'est pris une journée, on a partagé un repas, chacun a amené quelque chose à manger et ça s'est fait dans la bonne ambiance, on était 12. Voilà, donc il y a des belles coopérations qui existent. Plus simplement au quotidien, ça peut être pour certains enfants ou collégiens un cahier de liaison, ça peut être un mail envoyé au professeur principal, ça peut être le thérapeute à qui on demande son avis pour les aménagements ou qui peut même se déplacer dans un collège quand il y a vraiment besoin que la situation est un peu complexe. Ça peut être on se déplace pas mais simplement on échange au téléphone avant ou par mail, voilà. Ça peut être la communication qui passe par les familles aussi. Les familles ont leur rôle à jouer. Alors certains vont nous dire, bah oui, mais toutes les familles ne peuvent pas le faire. Mais même dans les familles qui s'impliquent peut-être difficilement, le fait qu'on les responsabilise et qu'on leur donne une mission, peut-être au début toute petite, va leur permettre de se restaurer, de reprendre leur place et petit à petit de cheminer et, voilà, et d'assumer ce rôle-là aussi.
Mais est-ce que vous ne déplorez pas une certaine défiance du monde enseignant qui voit des professionnels de santé qui commencent à s'immiscer dans les pratiques pédagogiques?
Alors moi j'ai pas du tout ce regard-là parce qu'en tant que et présidente de l'association, donc il y a 400 adhérents professionnels et orthophoniste dans un quartier sur Dijon, ça fait 18 ans que je travaille et je n'ai que des exemples de coopération. Donc c'est simple, on trouvera toujours des gens qui ne veulent pas coopérer, mais du coup ces gens-là je travaille pas avec eux. Donc en fait je ne travaille qu'avec des gens qui veulent coopérer et il y en a beaucoup en fait. Alors c'est vrai, il y a toujours ceux qui vont porter un regard de défiance, mais il y en a aussi tellement qui voudraient avoir des informations, qui voudraient juste pouvoir échanger. Alors il y a différents niveaux de coopération. Il y a la coopération très très proche, on adapte tous les supports. Moi j'ai des enseignants de mathématiques qui m'envoient par exemple par mail les contrôles, de façon à ce que je puisse les adapter une semaine à l'avance. Voilà. Donc c'est un niveau de coopération optimal. Mais il y a aussi des coopérations toutes simples, 2-3 fois dans l'année, se passer un coup de fil ou un mail. Ou quand on rencontre une difficulté bien ponctuelle, on se sollicite. Voilà. C'est des fois certains enseignants que je vais pas voir de toute l'année et puis l'année suivante, ça effectivement.
moment, il y a besoin de se concerter, de réfléchir ensemble à une question, de se repositionner, s'interroger sur l'orientation scolaire aussi. Voilà. Bon, c'est tellement plus facile de faire ensemble et d'avoir cette intelligence collective qui va faire émerger quelque chose de nouveau. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire 1 + 1 = 3 face à la dyslexie. Voilà. Donc, si on veut avoir la troisième solution, le plan C qui va être celui qui fonctionne, il faut réunir le 1 + 1, sinon on n'y arrivera pas. Sinon, on propose le plan 1, les parents consultent quelqu'un d'autre qu'ils ont le plan 2, et puis ils savent pas lequel ils doivent choisir. Si les deux professionnels se réunissent, ils vont avoir à eux, ensemble, l'idée de proposer le plan 3, et le parent saura où il met les pieds. Donc moi, je n'ai que des exemples comme ça. Il y a aussi aujourd'hui des enseignants qui se libèrent toute la journée parce que c'est des enseignants avec qui on a travaillé concrètement au quotidien sur un enfant, sur un autre enfant, avec un autre enfant. Et puis, qui petit à petit, au fur et à mesure des années, se disent, on va donner de notre temps pour faire passer aussi l'information et puis accueillir, écouter les parents ou même les collègues. Donc, ça peut aussi très, très bien se passer.
Moi, je crois qu'il faut s'unir. Je pense en tant que parent, notre association est née au mois de février et je vois tout ce que j'en ai appris, tout ce que j'en ai tiré pour moi et puis pour mon fils, pour notre famille. C'est au niveau personnel, au niveau familial, ça, c'est vraiment très utile. Au niveau aussi des relations avec les professeurs, parce qu'on a des bases, on peut aller discuter et je pense qu'on peut apporter et on peut entendre plus facilement aussi ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, ne restez pas seul.
Je voulais rajouter quelque chose sur la coopération avec les enseignants parce que c'est vraiment multisens, quoi. Hein. C'est du transprofessionnel, ces histoires-là. Les enseignants à apprendre des orthophonistes parce qu'elles ont des techniques, elles ont un regard différent. Mais les orthophonistes ont à apprendre des enseignants parce qu'une rééducation orthophonique bien menée, c'est une rééducation qui prend conscience que le patient se retrouve élève le lendemain dans une classe à 30 avec du bruit autour, avec la peur de changer de comportement et de conduite, même si elle était réussie la veille dans le cabinet de l'orthophoniste tout seul, bien au calme. Donc, il faut absolument qu'il y ait les deux regards portés sur l'élève, et sinon la rééducation orthophonique n'avance pas. Mais l'enseignant, s'il ne s'inspire pas de la méthode déployée par l'orthophoniste, ne peut pas faire avancer son élève au sein de son cours non plus. Voilà, donc tout le monde a y gagné. Bien sûr, si on raisonne pour l'élève en premier, ça devrait être notre premier phare dans ce bateau, mais même d'un point de vue purement égocentré, si on veut pouvoir être plus à l'aise dans son travail, on a tout à gagner de prendre un petit peu de temps en amont à aller rencontrer l'autre.
Oui, la coopération s'avère nécessaire pour préparer un avenir serein pour ces jeunes. Mais que d'embûches rencontrées, que d'obstacles en travers du chemin. Les fondements de cette construction passent souvent par un deuil, par le biais du diagnostic qui tombe, mais à partir duquel on va pouvoir élaborer un plan d'attaque. La réussite de ces jeunes passe nécessairement par une prise en charge thérapeutique, des adaptations pédagogiques, mais aussi par un cadre familial à la fois exigeant et bienveillant.
Oui, la difficulté aussi, avant d'arriver à un diagnostic ou à mettre des mots sur des attitudes, c'est déjà on est face à son enfant. On pense, on voit des choses qui ne fonctionnent pas forcément, ou on est obligé de travailler différemment qu'avec d'autres enfants. Et ce que nous renvoie la société aussi de notre enfant ne correspond pas à notre perception. On pense qu'il a du potentiel, on pense qu'il peut faire des choses, mais peut-être pas en respectant le cadre habituel dans lequel il devrait évoluer. Alors il y a déjà toute cette période de questionnement et puis on entend parler effectivement de 10, il peut y avoir un suivi orthophonique à un moment qui se met en place, on vous parle d'un possible bilan neuropsychologique. Donc tout ça vous questionne et c'est assez compliqué parce que du coup, quelle réponse on peut donner par rapport à tout ça? Comment on peut aider notre enfant sans en même temps le stigmatiser? Parce qu'on vous parle aussi de MDPH, de handicap, et vous ne voulez pas qu'il avance dans cette voie-là, quoi. Vous dites non, il y a bien d'autres façons de faire qui ne correspondent peut-être pas au schéma qu'on nous impose, mais il a bien un savoir-faire et on peut le développer et travailler avec. Et c'est vrai que des temps comme celui-là, donc cette journée spécifique aux 10, ça permet justement de rencontrer des parents qui ont déjà fait un parcours et qui sont peut-être en avance par rapport à un parent qui découvre vraiment la problématique. Et du coup, voilà, c'est réconfortant. Et comme il vous a déjà été dit, c'est vrai que l'union fait la force. Et c'est la somme de toutes ces expériences, de ces connaissances, qui fait que du coup, on a un autre regard. Pas le regard de la société avec un grand S, mais le regard de gens, parents,
professionnels et puis aussi enfants, vous envoient une image de réalité et non pas de ce que vous devriez être parce que la société souhaite que vous soyez formaté de telle ou telle façon. Et ça, c'est réconfortant. Et effectivement, je suis assez contente de rencontrer tous ces gens et du coup, ça va permettre de peut-être de pas avoir un sentiment de culpabilité, mais au contraire de voir que tout est possible, peut-être différemment, mais qu'il y a des possibilités, qu'il faut absolument aller dans ce sens-là.
Alors, l'avenir, on peut le voir différemment, c'est-à-dire qu'en tant que parent, avant que le diagnostic tombe, alors notre enfant, quand il naît, il est toujours parfait, c'est l'enfant parfait, il ira très loin dans la vie. Sauf que à l'école, ça ne se passe pas pareil. À l'école, on me dit « votre enfant a des difficultés ». Du coup, en tant que parent, il faut déjà qu'on fasse le deuil de l'enfant parfait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à assimiler que notre enfant n'est pas parfait et ne sera jamais parfait et qu'il aura toujours des difficultés scolaires. C'est une étape. Après vient le diagnostic. Et une fois que le diagnostic est tombé, c'est un soulagement dans le sens où on sait ce qui va pas. Du coup, on sait comment il fonctionne. Et du coup, même pour l'enfant, il comprend comment il fonctionne et il ira beaucoup plus loin. Et donc l'avenir, avant le diagnostic, on le voit tout noir. Mais après le diagnostic, en fait, on est fiers de notre enfant qui réfléchit et qui pense pas du tout comme les autres. Je peux rappeler que Bill Gates est un enfant 10, que Mika, le chanteur, était 10 aussi, enfin il est encore, et que Einstein était 10 aussi. Donc voilà, on a une période où on sait pas où on va aller et on a une période où on souhaite le meilleur pour lui et on sait qu'il va y arriver parce qu'il met déjà tellement de difficultés à pouvoir faire ce qu'il est en train de faire qu'il s'est tellement habitué à brasser qu'il va y arriver quand même. Il n'y a pas de souci.
Radio Prévert, c'est trop super. 101.9.
La première chose, c'est quand même dans l'acte diagnostique, parce que le fait de typer, de dire à un enfant, voilà, c'est pas que tu es nul. On voit bien que tu es normalement intelligent, que tu ne le fais pas exprès. Mais voilà ce qui se passe. Je vais t'expliquer pourquoi tu as du mal à lire et d'apporter aussi une clé de compréhension à ses parents pour que les parents le regardent avec un autre regard, ça fait déjà pour beaucoup. Donc l'acte diagnostique, en fait, est fondamental parce que c'est le premier acte thérapeutique, en fait, qui permet à l'enfant de mieux se comprendre, de prendre de la distance avec ses difficultés et puis d'être un peu plus armé. Alors, il faudra user de beaucoup de redondance hein, dans les explications pour que ça puisse pénétrer après toutes ces années d'échecs, parfois. Mais c'est quand même déjà la première pierre. Une autre pierre, c'est dans la coopération avec les enseignants et la famille. Parce que la rééducation orthophonique seule ne peut pas grand-chose. En rééducation orthophonique, on va apporter des outils à l'enfant, lui montrer comment il peut essayer de restaurer ou de contourner sa difficulté. Mais sauf qu'il faut que ça fonctionne pour faire les devoirs à la maison et le lendemain à l'école. Donc si c'est rare quand même les enfants qui, dès tout petit, dès 8, 9, 10 ans, vont s'autoriser tout seuls à sortir l'outil vu avec l'orthophoniste la veille ou à procéder d'une stratégie différente que celle demandée par l'enseignant. Il faut quand même avoir beaucoup de culot quand on est enfant pour oser faire différemment des autres. Et au collège, c'est encore pire puisqu'il faut pas trop se démarquer. Donc c'est important que l'orthophoniste puisse vraiment coopérer avec les parents et l'enseignant, faire passer ces informations-là pour que ce soit les adultes autour de l'enfant qui incitent l'enfant en l'encourageant à dire bah tiens, fais comme tu as appris avec l'orthophoniste ou utilise ton cache de lecture, utilise ton outil de lecture. Des fois, il y a des codages de couleurs. Des fois, on peut numériser les textes et les transformer en alternant les syllabes de couleurs. Voilà, on alterne une syllabe d'une couleur, la syllabe suivante d'une autre couleur, etc. pour que l'enfant puisse mieux savoir où il en est dans sa lecture et comment enchaîner les syllabes. Ça peut être un décodage encore différent, ça peut être simplement agrandir le texte, les interlignes, les écarts entre les mots. Enfin, il y a plein d'astuces. Pas chères, gratuites, facilement accessibles, qui sont faisables. Souvent, on manque de connaissances, en fait. On n'a pas le temps, on prend pas le temps. C'est des choses qui sont assez simples. Je crois qu'il faut aussi être assez humble et pas se vexer si c'est un parent qui propose d'adapter les supports, si c'est l'orthophoniste qui propose quelque chose, si c'est l'enseignant qui a fait une trouvaille et qui, de lui-même, a pris l'initiative de « très bien, si ça peut aider, ça va dans le même sens ». Voilà, il y a tous ces outils-là au quotidien. Et puis après, y a quand même le nerf de la guerre de la rééducation orthophonique qui va être de travailler sur les fonctions qui peuvent être déficitaires à un moment donné et que l'on peut quand même stimuler puisqu'on sait qu'il y a une certaine flexibilité quand même dans le développement de la tête de l'enfant et que l'enfant peut récupérer aussi certaines compétences.
L'avenir, moi, je pense que je le vois plutôt bien pour mon fils parce que à côté de ça, il a aussi un haut potentiel, ce qui lui a permis de, malgré tout, de lire beaucoup et de, voilà, ça a beaucoup compensé. Et puis il a des dons, voilà, il est très bon dessinateur, donc il y a des voies qui s'ouvrent à lui. Parce que c'est vrai que quand on a 2 de moyenne en maths, quand on est mauvais en langue, ben, voilà, concrètement, on se dit qu'il n'ira pas bien loin au niveau d'études. Le fait qu'il ait malgré des dons à côté, ben, ça lui permettra de se tracer une voie et de se réaliser. Mais je comprends très bien une maman, une amie qui me disait, ben, mon fils, il a fallu que je me résolve à le mettre en Ulysse. Et pour moi, c'était difficile à accepter ça, parce que j'ai l'impression que ça lui ferme son avenir. Mais je partage un peu tout ça. C'est pas simple d'envisager un avenir pour un enfant qui a des difficultés. Mais il faut vraiment optimiser, voir ce qui vraiment marche chez eux et les pousser là-dedans, quoi.
On peut compenser complètement sa dyslexie, voilà, si le travail a été bien mené, une personnalité construite qui sait identifier son fonctionnement et le contourner. Après, ben, ça reste un fonctionnement d'un individu avec son parcours unique, son parcours extraordinaire. Les grands, tout à l'heure, en fin de journée, on aura des témoignages de grands jeunes ou d'adultes dyslexiques. Moi, pour réconforter les parents, mais aussi par mon expérience professionnelle d'orthophoniste, je vois maintenant avec ces grands dyslexiques qui ont 20-30 ans, que finalement ça peut devenir aussi une force, hein. Donc quelque chose qui a été vécu, vu par l'entourage, transféré aux yeux de l'enfant comme une faiblesse, une difficulté, un enfant qui s'est senti nul à l'école, pas compris, des mouvements de solitude, c'est vrai, hein. Bah, finalement, quand c'est accompagné, ça peut devenir une force, parce que ce sont des enfants sensibles qui savent où sont les choses importantes, qui se connaissent aussi très bien, qui ont appris à prendre de la distance sur eux-mêmes et sur un système qui les entoure. Et quand on leur apporte les moyens de contournement, eh bien, voilà, c'est des gens qui sont très forts à fonctionner en équipe aussi, avec une belle sensibilité.
Je ne sais pas encore trop ce que je veux faire plus tard, c'est encore un peu flou. Mais je pense que, oui, effectivement, j'ai demandé Erasmus, même si ça me fait un peu peur, parce qu'il va encore falloir se repérer dans une autre ville, dans un autre pays. Enfin bon, ça va être... voilà. Mais je pense, je me dis, au final, j'ai réussi à aller jusque-là. Donc finalement, pourquoi pas dans un autre pays, je peux tout à fait y arriver de la même manière que je suis arrivée jusqu'ici, jusqu'à présent. Et au final, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera toujours dur, ce sera toujours long, mais ce sera toujours possible. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Moi, ça fait un moment que je veux être boulangère, pâtissière, puisque j'aime bien être dans la pâtisserie. Je pense que ça va être dur, mais il faut quand même que j'y arrive. Puis j'espère pouvoir me battre pour pouvoir y faire.
Je sais pas, quand je vous écoute, à chaque fois, j'entends tout le temps le vocabulaire de se battre, persister. On sent que c'est quelque chose qui est permanent.
Oui, tout le temps. Tout le temps, oui, il faut se battre, il faut faire comprendre aux autres nos difficultés. En tant que parent, pareil, c'est même presque pire, je pense, en tant que parent, parce que on veut protéger notre enfant. Alors du coup, on est presque des loups en fait, hein, qui veut protéger son petit. Et du coup, oui, il y a des moments où on est obligé de limite montrer les crocs pour arriver à faire comprendre et faire respecter les aménagements ou toute autre chose. Et puis voilà.
Oui. C'est vrai, Pénélope, parce qu'on s'est le dit, en fin de troisième, c'était peut-être la période la plus difficile, parce qu'on voyait que les études, c'était compliqué, mais en même temps, comme elle dit, quand on est dyspraxique, on n'est pas manuel. Donc, toutes les orientations de fin de troisième, c'est plutôt vers des gens qui vont vers du manuel. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce casse-tête? Alors, elle n'est pas manuelle parce qu'elle est dyspraxique. En même temps, les études ont l'air de bloquer. Donc, là, il y a eu un mur. Et bon, voilà, on a franchi le mur, on est passé de l'autre côté et finalement on a fait le bon choix. On a fait le bon choix et voilà. Mais des fois je me dis, c'est vrai qu'il faut, on dit des fois à chaque jour suffit sa peine, mais c'est un peu comme ça qu'on vit avec un enfant. On dit ça, des fois faut pas toujours trop projeter et tout ça. Aujourd'hui on franchit ça, ouf, c'est bien, demain on en fait un peu moins et au jour le jour, quoi, voilà. Faut pas trop projeter non plus, tout en y croyant. Mais c'est vrai qu'il y a des grands moments de doute. C'est pas un parcours sans des grands moments de doute, sans se dire on y arrivera pas, sans se dire ça marchera pas. Voilà. Mais malgré tout, faut avoir se dire oui, quand même, on se relève.
Oui, comme moi, par mon parcours. Moi, je me suis retrouvée en SECPA. Et donc, de là, comme je disais tout à l'heure, je suis rentrée en SECPA. Et puis, en fait, j'en suis sortie avec les mêmes soucis. Et moi, à cette époque-là, j'ai appris l'horticulture. Alors, ça a été très compliqué pour moi parce que déjà, le français, c'était pas la peine. Alors, savoir écrire les noms en latin, c'était même pas la peine. La pratique, OK, ça allait, mais le reste, non. Alors, j'avais fait un CAP blanc, non, je l'avais pas. De toute façon, c'était pas la peine. Et donc, de là, oui, vu que mes parents n'étaient pas informés à l'époque, du coup, oui, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et après, je me suis dit, pendant un an, j'ai rien fait du tout, tellement que j'étais, je savais plus de quoi j'étais capable, en fait. Alors, du coup, après un an après, j'ai été dans les maisons de formation, le Greta, pour essayer de faire une remise à niveau. Et même en faisant ça, j'ai dit, il y a rien qui m'aide. Et du coup, il y a personne qui savait ce que j'avais vraiment. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai eu ma fille, et puis en fait, qu'on a découvert ces soucis 10, que je me suis dit, c'est ça que j'ai. Parce que le CP, je voyais qu'elle galérait comme moi, le CE1, le CE2. Puis c'est quand CM1 qu'on m'a dit, mais votre fille, elle a un souci, il faut la faire voir par une orthophoniste. Et du coup, de là, j'ai dit, mais moi, j'ai tout ça. Et fur et à mesure, avec tous les spécialistes que j'ai rencontrés pour Clémentine, à chaque fois, j'essaie de mettre en avant leur disant, je la comprends parce que j'ai ça, j'ai la même chose. Et c'est vrai que j'ai pu mettre aussi, moi, des mots dessus. Et puis maintenant, je vais arriver à comprendre ce que j'ai aussi par les examens qu'elle va passer bientôt, avec l'aide de Pluradis. Et puis dans tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que les parents soient pas informés, les professeurs, il y a plein de choses à faire. Et de là, j'ai dit, je vais faire mon association, alors à l'écoute des enfants 10. Et du coup, j'aide les parents, j'aide tous ceux qui sont ouverts à ça, en fait, sur ma page depuis 3 ans. Et puis là, j'ai vraiment mis en place cette association dans le 71 pour faire des interventions dans les classes, informer les professeurs, expliquer aux autres élèves ce que vivent le petit copain, leur montrer exactement, ce qu'il voit quand il lit, voilà ce que ça lui fait quand il veut servir de ses mains. Essayer de faire comprendre un peu à tout le monde par quoi passent les enfants, en fait.
Je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour clore mon discours. En fait, c'est surtout faire passer donc un message à tous les parents, tous les enfants qui sont dans cette situation-là. C'est leur dire qu'au final, oui, c'est dur, ça prend du temps, mais que avec de la volonté, avec de l'acharnement, avec du courage, on peut forcément y arriver et que c'est possible, même si c'est plus long que pour les autres enfants, que pour les on peut y arriver et c'est possible. C'est surtout ça que je voulais faire passer.
Faire reconnaître le ou les troubles 10 chez son enfant, s'orienter vers les professionnels pour les soins les plus à propos, tout ceci s'avère très complexe quand on est parent. C'est pourquoi a été créée l'association Pluradis, que nous présente sa présidente, Sophie Saltarelli.
Je suis Sophie Saltarelli, la présidente de l'association Pluradis, qui est une association régionale pour la Bourgogne, avec les 4 départements, et puis qui soutient un réseau de santé porté par l'Agence régionale de santé Bourgogne, pour répondre à une mission de santé publique, donc aider les familles à organiser un parcours diagnostique pour leur enfant, savoir qu'est-ce qu'il a concrètement et comment on peut les aider. Venir en aide aux professionnels qui suivent les enfants pour pouvoir mieux se coordonner dans des situations un peu complexes. Donc voilà, on fait office de ressources. Et puis, en parallèle, des actions qui sont portées cette fois-ci uniquement par des fonds associatifs propres. On aide, grâce à l'aide de CAFREAP, les réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité, aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, différentes villes de la Bourgogne qui soutiennent les actions. Et puis là, ça permet, en fonction des besoins locaux, dans certains départements, il y a des soirées d'aide aux devoirs, par exemple, pour aider les parents à savoir comment aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Dans d'autres villes ou départements, c'est des enseignants, par exemple, d'un groupe scolaire ou de plusieurs collèges qui demandent une intervention et puis qui l'organisent par eux-mêmes et donc qui cherchent des intervenants pour les informer. Ça peut être la journée des 10, comme aujourd'hui, où on essaye de faire des journées grand public pour faire partager l'information. Enfin voilà, plein d'initiatives en fait qui nous sont demandées par les parents, les enseignants ou les professionnels de santé pour faire un petit peu mieux connaître les difficultés que peuvent présenter les enfants dans leurs apprentissages.
Concrètement, sur le département de la Saône-et-Loire, il y a une équipe ressource à Chalon-sur-Saône. Donc cette équipe ressource, c'est en fait une équipe de plusieurs professionnels de santé. Donc il y a un médecin neuropédiatre qui travaille au centre hospitalier et qui est détaché par l'hôpital pour le réseau Pluradis. Il y a une orthophoniste, une ergothérapeute, une neuropsychologue, une psychologue. Et donc ces professionnels, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un plateau technique. L'enfant ne va pas passer la journée avec ces gens-là et puis ce serait magique à la fin de la journée, on sait ce qu'il a. Non, là, nous, on vient en appui aux professionnels qui suivent déjà l'enfant pour regarder tout ce qui a déjà été fait. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait et bien fait. Par contre, des fois, il y a besoin de compléter et c'est compliqué pour les parents de compléter parce que ben, des fois, c'est des actes qui sont onéreux, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou alors on ne sait pas qui aller voir ou alors ben, on a déjà vu plein de monde mais les gens ne se sont pas forcément parlé entre eux, n'ont pas communiqué. On essaye aussi de décloisonner entre le libéral, l'hospitalier, l'institution, l'éducation nationale. Voilà. Donc, nous, le travail de cette équipe ressource à Chalon, ça va être de recevoir les dossiers, les situations de ces enfants, d'essayer de les analyser, de les comprendre pour apporter un regard complémentaire de façon à avoir nos petites pièces de puzzle. Voilà, les petites pièces de puzzle qui manqueraient, qui nous permettraient d'avoir à la fin une vision bien plus globale pour que, à la fin, c'est quand même le but, on puisse, avec les professionnels qui suivent l'enfant, bah, déterminer peut-être des interventions plus précises, plus spécialisées qui vont aider l'enfant à faire ses apprentissages en lien avec l'école, du coup. Donc ça, c'est pour l'équipe ressource sur Chalon, mais il y a aussi d'autres choses qui existent à Chalon. Par exemple, les bénévoles de l'association en lien avec les professionnels qui organisent la journée des 10 tous les ans. Donc là, c'est un zoom vraiment sur l'ensemble des troubles dits 10, hein, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, troubles déficitaires de l'attention, dysorthographie, dyscalculie. Mais en fait, dans l'association Pluradis, ça représente 50% des troubles que peuvent présenter les enfants. Donc voilà, il peut y avoir... Il y a des conférences aussi, par exemple. Alors, c'est pas sur le Chalonnais, c'est sur le Louhannais. C'est un secteur où les professionnels nous ont sollicité pour justement organiser des soirées d'information.
Et concrètement, si je suis parent d'un enfant qui est 10, comment est-ce que je dois m'y prendre? Quelle démarche je dois effectuer? Je téléphone à Pluradis, je contacte l'hôpital, comment est-ce que ça se passe?
Alors bien souvent, quand on est parent d'un enfant qui est 10, on ne le sait pas déjà qu'il est 10. Donc en fait, on galère avec les difficultés au quotidien et on va voir un professionnel. Ce professionnel fait un bilan, propose peut-être une rééducation, une prise en charge ou nous dit d'aller voir un autre professionnel. Et puis des fois, on s'en arrête là parce que ça suffit, ça permet d'aider l'enfant et puis on voit qu'il progresse. Et donc très bien, on n'appelle pas Pluradis dans ce cas-là. Hein, on peut présenter une dyslexie et ne jamais faire appel à Pluradis. Mais il y a quelques cas où les parents ont déjà démarché des professionnels et malheureusement, ça ne suffit pas, les difficultés persistent et puis on s'en sort pas, on nous demande d'aller voir encore un autre professionnel, puis un troisième et puis on a l'impression d'être un peu perdu en tant que parent, de plus trop savoir, de comprendre ce qu'il faut faire et pourquoi. Et là, soit un des professionnels peut conseiller la famille de contacter Pluradis, soit la famille peut appeler Pluradis, donc il y a un numéro unique. Elles vont avoir une conversation avec une des secrétaires du réseau qui vont se charger justement de vérifier si la famille fait bien partie, présente bien les critères d'inclusion, on peut venir en aide. Alors il y a deux cas de figure très simples, soit on peut lui venir en aide, et dans ce cas-là, la famille aura un rendez-vous avec un médecin coordinateur de son département. Donc elle ne se déplace que dans le département, donc ici ce sera à Chalon. Soit elle ne fait pas partie de, il y a pas, enfin c'est pas notre mission de venir l'aider, mais dans ce cas-là on le réoriente tout de suite sur le bon professionnel.
Sinon, plus généralement, Pluradis, c'est une association qui essaye au quotidien de répondre à son but de décloisonnement entre le milieu de la santé, de l'éducation et du social. Parce qu'un enfant, c'est, on a l'habitude de dire les grandes phrases, c'est l'enfant, faut voir l'enfant dans sa globalité. Bah, la globalité de l'enfant, c'est aussi la globalité des gens qui gravitent autour de lui et qui l'accompagnent. Donc c'est pas que l'orthophoniste, pas que l'enseignant, voilà, c'est des domaines quand même très croisés. Et je crois que nous, on milite pour que chacun accepte d'ouvrir un petit peu son horizon sur les compétences croisées de l'autre. Parce qu'en fait, on a tous à gagner de se rencontrer, d'échanger. Et puis, ben, du coup, ça apporte cette fameuse cohérence à l'enfant qui voit que ce qu'il fait avec l'un est repris par l'autre et que c'est pour l'aider finalement avec le troisième, que tout le monde coopère et il s'emporte, et ça pour beaucoup, beaucoup dans l'amélioration de sa difficulté ou en tout cas au niveau de la construction de sa personnalité, il ne va pas se sentir comme le dernier des nuls qui embête tout le monde, mais vraiment comme voilà, je suis un enfant avant tout, j'ai une difficulté, ben, les gens m'aident, sont là pour m'aider, on construit ensemble et c'est quand même la première des réponses à apporter à un enfant.
Même si le parcours des personnes atteintes de troubles 10 se révèle encore semé d'embûches, Celui-ci a néanmoins été facilité grâce à de nombreux acteurs, professionnels de soins, enseignants chevronnés, mais aussi les associations de parents. Si vous désirez être conseillé dans vos démarches, il vous est possible de les contacter en vous rendant sur le site internet et la page Facebook de Radio Prévert. Vous pourrez alors prendre connaissance des divers médias par lesquels vous pourrez les joindre. Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, ainsi que les membres de l'association Pluradis, qui m'ont laissé travailler en toute confiance et en toute liberté. Pour conclure, je vous laisse méditer cette citation d'Albert Einstein, lui-même dyslexique. « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. »